There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée. Réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle, et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock, et dites-lui s'il vous a plu, pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouver le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre, et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Quand ton fils se réveille à 5h30 du matin et qu'il te dit « Maman, plus dodo, tété !» On bat. Bon, plus dodo, tété, allez, c'est parti. Oui, on ouvre les yeux, quoi, hein, où, comment. Et puis voilà, on y va.
Et puis la vérité, c'est que ça va... Enfin, il y a un moment donné où ça va finir, ça.
Il faut bien, il sera adolescent, il dormira, je devrais le réveiller le matin pour aller au collège et lui dire, là, mon chéri, il est temps de se lever.
Voilà, mais même avant ça, hein, parce que tu vois, c'est vrai que c'est toujours la blague. Mais enfin, moi, je vois ma grande, là, depuis qu'elle a 4 ans et demi, à peu près, elle dort super bien. T'as pas besoin d'attendre qu'elle ait 14 ans.
Non, mais en fait, je me plains, mais c'est vachement mieux que ce que c'était déjà il y a 6 mois. Il a commencé à vraiment bien dormir la nuit quand il a eu 16 mois. Ça part, en fait. Donc ouais. Oui, des fois, il se réveille tôt. Bah, il se réveille tôt. Des fois, il fait ses dents. Donc, bah, il se réveille. Enfin, c'est un enfant,
ouais.
Quoi.
Donc, ouais. Cool. Donc, Lucie, nous, on s'est rencontrés via TikTok. Tu m'as envoyé un petit message il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, tu es sage-femme ?
Ça, je suis sage-femme. Depuis 2020, j'ai eu mon diplôme en juin 2020.
Trop bien, ça va faire 4 ans.
Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà.
Ouais.
Oui.
Ça ne rajoute pas.
Déjà. Oui.
C'était quoi ? C'était une vocation ? C'était d'où ça te vient cette envie d'être sage-femme ?
Une vocation. Je savais que je voulais travailler dans la santé, c'était sûr et certain. Infirmière, médecin, sage-femme, kiné, dentiste, farfouiller dans la bouche des gens toute la journée, ça me tentait pas vraiment. Mais voilà. Mais non, sinon, je savais que je voulais travailler dans la santé. Donc, bah, ma première option quand j'ai eu mon bac, c'était de me dire, bon, bah, je pars en médecine, hein, allez, go, c'est parti. Et puis, en fait, finalement, quand je suis arrivée en médecine, on nous a parlé des différentes options, du coup, qui étaient possibles après la première année commune aux études de santé. Et donc, du coup, j'ai décidé de passer les concours de sage-femme et médecine, parce que c'était les deux qui m'intéressaient le plus. Et j'étais à 10 places de réussir médecine, ce que je n'ai pas réussi, et j'ai été acceptée dès la première année en école de sage-femme. Et vraiment, c'était hors de question que je me retape une deuxième année de première année de médecine, parce que c'est quand même une année qui est difficile, hein, d'un point de vue physique, psychologique. Enfin, en fait, on passe son temps à travailler, bâcher, apprendre, apprendre. Enfin, c'est pas une année qui est très facile. Donc, bah, je me suis tournée vers sage-femme. Et puis, au final, c'était le meilleur choix qui devait s'offrir à moi. Voilà, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Et puis finalement, c'est très bien parce que 11 ans d'études, je ne les aurais vraiment pas tenus. C'était pas possible. 5 ans, c'était déjà très bien et j'avais déjà très hâte de sortir du système scolaire pour pouvoir enfin démarrer ma vie. Puisque bon, quand on est étudiante, on stagne un peu au même endroit pendant plusieurs années. Et puis voilà, au final, c'est venu à moi par la force des choses et c'est très bien.
Très bien. Je creuse quand même ce truc d'avoir envie de travailler dans la santé. On n'est pas tous câblés pareil et tout, mais c'est vrai que moi, je me dis, la santé, enfin, tu vois, on voit que c'est hyper difficile et tout. On sait que c'est pas simple pour les soignants de travailler dans la santé. Donc, j'imagine que c'est une envie d'aider l'autre. Enfin, tu vois, c'est quoi la
Ah
genèse de...
ouais. C'est vraiment l'envie d'aider les gens. Et je pense que moi, j'ai eu mon bac à 17 ans. Je pense qu'à 17 ans, tu ne te rends pas trop compte encore de tout ce système médical et des conditions de travail à l'hôpital. Et tu ne te rends même pas compte de à quel point ça va être. Enfin, on te vend la première année de médecine comme une année qui est dure. Mais en fait, ce n'est pas la première année de médecine qui est dure. C'est les études de santé qui sont dures. Euh,
Ouais.
c'est les stages dans des milieux hospitaliers avec peu de personnel qui sont pas là pour t'accompagner, qui prennent pas le temps de faire correctement les choses avec toi, qui sont eux-mêmes dépassés par le travail qu'ils ont déjà et donc ils ont juste pas le temps de gérer la petite étudiante sage-femme à côté, mais étudiante sage-femme ou infirmière ou
Ouais.
les externes, les internes, c'est pareil en fait. Et je pense que quand tu as 17 ans, tu te rends pas compte de tout ça quand tu te dis je vais aider les autres en fait.
Ouais.
Quand tu pars en études de santé, quand tu es tout juste majeur, tu te dis juste, bah, moi j'ai envie d'aider les gens, moi j'ai envie de soigner les gens, moi j'ai envie de les accompagner. Moi je savais que je voulais travailler avec les bébés, enfin si je faisais médecine, c'était pour être pédiatre ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, moi mon but, je pense que si j'avais été infirmière, j'aurais fini puère, mais voilà, je voulais travailler avec les enfants, je voulais travailler avec les bébés. Et puis ouais, tu te rends pas compte en fait de tout ça quand tu as 17 ans et quand tu te dis juste bah moi mon but c'est juste d'aller aider les gens et je veux juste apprendre comment soigner les gens et comment les accompagner et ouais, vraiment c'est pas quelque chose dont tu te rends compte tout le système
Oh, oui.
hospitalier ou enfin les manques d'effectifs, le fait que bah t'es payé une misère alors que tu as fait 5 ans d'études pour en arriver là, que voilà, tu te rends pas compte de tout
Oh,
ça, c'est
ouais.
vraiment juste une envie d'aider les gens. Et après, une fois que tu es dedans, et une fois que tu as mis le pied dedans, tu te rends bien compte que c'est pas ce que tu avais imaginé en premier lieu. Enfin, en tout cas, le milieu hospitalier n'est pas ce que tu avais imaginé en premier lieu. Et c'est pas juste tu te lèves le matin et puis tu veux aider les gens, c'est tu te lèves le matin et puis ah bah est-ce qu'on va me rappeler aujourd'hui parce qu'il manque quelqu'un en garde? Ah tiens, est-ce que je vais devoir faire des heures sup aujourd'hui parce que ma collègue elle va arriver en retard? Ah bah tiens, est-ce que cette nuit on va me rappeler parce qu'il y a quelqu'un qui est en arrêt de dernière minute? Enfin voilà. Donc ouais, c'est ah, est-ce qu'on va accepter mes vacances? Parce que forcément, faut accepter les vacances de tout le monde. Enfin, en fait, c'est plein de choses auxquelles tu penses pas et où tu te rends compte quand tu t'as mis les pieds dedans, en fait.
Oui, et puis de toute façon, enfin, c'est vrai, c'est ce que tu dis, quand tu as 17 ans, tu es encore un enfant. Donc non, tu n'as pas conscience de la réalité du marché du travail, de la société. Enfin, oui, c'est clair.
Exactement ça. Enfin, moi, quand j'avais 17 ans, ma seule priorité, c'était de me dire, je veux réussir cette première année de médecine. Voilà, c'était vraiment le seul truc auquel je pensais toute la journée. C'était, il faut que je réussisse cette première année de médecine pour pouvoir enchaîner sur mes études derrière. Et tu penses pas à tout ce que ça implique, en fait, derrière toi. Tu te dis juste, bah, oui, je veux faire ça de ma vie et c'est les études pour le faire. Et après, une fois que tu commences tes stages, tu te dis, ah oui, en fait, c'est ça l'hôpital et en fait, c'est ça qu'on subit et c'est ça que les soignants subissent. Et à partir de là, tu commences à faire des recherches et puis tu comprends pourquoi les soignants manifestent, tu comprends pourquoi, enfin, Tu comprends pas pourquoi il n'y a pas assez d'effectifs, hein, ça c'est juste le gouvernement, mais en fait tu comprends toutes les problématiques qui sont à l'hôpital une fois que tu as commencé à faire des stages là-bas en fait.
Ouais, bien sûr. Ok, donc sage-femme, comment se passe? Donc c'est 5 ans d'études, comment ça s'est passé pour toi?
C'était 5 ans quand j'ai eu mon diplôme, mais du coup là il y a eu la réforme, on est passé à 6. Moi j'ai, enfin, franchement, mes études, j'ai vraiment pas à me plaindre comparé à certaines autres, enfin, que ce soit profession médicale ou même certaines de mes collègues sages-femmes qui ont eu des expériences en stage désastreuses avec des sages-femmes atroces. Enfin, moi, mes stages se sont toujours relativement bien passés. Enfin, je sais que tu parles beaucoup, toi, par exemple, dans tes podcasts, du fait que les sages-femmes, les soignantes, ne sont pas forcément formées à la physiologie. Dans mon école, on a été très formées à la physiologie, ce qui est une chance, d'un point de vue théorique en tout cas. Pas d'un point de vue pratique, on en parlera après, mais d'un point de vue théorique, enfin, nos 3 premières années d'études, on parle que de la physiologie, en fait, on n'entend pas le mot pathologie pendant 3 ans, et arrivé en 4e année, on dit, bah, en fait, il y a tous ces risques-là, mais pendant 3 ans, on nous parle vraiment que de la physiologie de l'accouchement, de comment ça se passe, des choses qui sont censées se passer comme ça se passe, en fait, parce que c'est censé se passer comme ça. Et oui, moi, j'ai eu, enfin, que ce soit mes études ou mes stages, ça a toujours roulé, je suis toujours tombée sur des sages-femmes bienveillantes qui faisaient attention à ce que je me sente bien en stage, qui essayaient de m'inclure dans les soins, et pas à la sage-femme où tu arrives le matin et tu lui dis bonjour, je suis Lucie, l'étudiante sage-femme, et elle te fait oh, une étudiante. Enfin voilà, moi j'ai jamais eu trop ça, j'ai jamais eu de sage-femme qui ont été maltraitantes avec moi, et c'est une chance hein, parce que quand j'entends d'autres récits d'autres étudiantes ou enfin, d'autres sages-femmes, et même enfin, pas forcément sage-femme, infirmières ou les externes et tout ça, enfin, il y a des stages qui sont atroces et qui se passent très très mal, et ça te donne pas envie de remettre les pieds à l'hôpital, clairement, quand ça se passe comme ça. Mais moi, pendant mes études, en tout cas, j'ai toujours eu de la chance, ça s'est toujours bien passé.
Oui, après, j'allais dire, des gens nuls, il y en a partout. Enfin, c'est
Oui,
pas que les
c'est ça.
soignants, c'est pas que les sages-femmes. Enfin, moi, j'ai fait des jobs dans la
Hein. Et
communication.
j'en ai côtoyé hein, des sages-femmes qui n'étaient pas les plus sympathiques du monde, mais en tout cas, elles n'ont jamais été méchantes avec moi et je me suis toujours assurée de les garder. Loin et de pas. Voilà, quand j'arrivais le matin et qu'il y avait une sage-femme que je connaissais et que je savais qu'elle était sympa et l'autre qui était un peu moins sympa, bah, je me dirigeais vers la sage-femme qui était un peu plus sympa et puis voilà quoi. Donc même si l'autre sage-femme était là en soi à côté, elle était là pendant 12 heures, bah, je la côtoyais moins.
Ouais, c'est enfin, je comprends. Et c'est juste enfin, pour bien cadrer le truc, enfin voilà, c'est pas du tout pour être à charge contre les sages-femmes. Enfin, voilà, il y a des gens qui devraient pas être au contact d'autres gens, quelle que soit la profession. Et voilà. Donc tu dis qu'il y a beaucoup de physiologie, donc 3 ans de physiologie. Qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que je discutais avec une autre sage-femme, enfin, qui était toujours étudiante il y a quelques mois, et elle m'expliquait que la physiologie, ben, c'était un accouchement physiologique, c'est un accouchement dont la dilatation doit se passer 1 cm par heure à peu
Et ben
près.
non, justement, ouais.
D'accord. Donc c'est pour ça,
Justement,
est-ce que
moi
tu
je
peux en
t'avoue,
dire un peu plus?
ouais. Nous, on ne nous a pas appris la physiologie comme ça. Mais quand je dis qu'on ne nous a pas appris, dans la théorie, on ne nous a pas appris la physiologie comme ça. Parce qu'en soi, dans la pratique, en stage, des accouchements physiologiques, donc on s'entend, hein, sans péridurale, sans intervention médicale, ben, en fait, on n'en voit quasiment pas. Enfin, il y a 85% des femmes qui accouchent sous péridurale. Donc quand tu es en stage, forcément, ta normalité en
Bien
stage,
sûr.
c'est une femme qui accouche. En position gynécologique, qui a été sous péridurale, que si sa dilatation, elle s'est pas bien faite, on lui a mis de l'ocytocine. Enfin, voilà, ça, c'est notre normalité.
Bien sûr.
Alors qu'en soi, moi, pendant 3 ans, en soi, pendant 2 ans, parce que du coup, la première année de médecine, nos études de sage-femme, enfin, on parle pas des trucs de sage-femme, mais pendant 2 ans, nous, ce qu'on nous apprenait, c'était que bah, un accouchement physiologique, c'est la phase de latence, ça prend du temps et on n'intervient pas, il n'y a aucune raison d'intervenir si une phase de latence prend des heures, des jours, des semaines. Il n'y a pas à intervenir. Il n'y a pas à intervenir si il y a une stagnation de la dilatation qui dure moins. Alors, je bosse plus en salle de naissance maintenant, je bosse en libéral, j'ai mon cabinet, mais je crois qu'il dure moins de. Enfin, si ça stagne pendant moins de 4 heures, bah c'est juste normal en fait. C'est pas une stagnation, c'est juste que c'est l'avancée normale d'un travail, ça prend du temps. Qu'il n'y a pas besoin de mettre d'ocytocine de synthèse si on est encore dans cette phase de latence là où ça n'avance pas, mais parce que c'est juste normal, on est dans une phase qui prend du temps en fait. Que la physiologie de l'accouchement, c'est que la femme doit choisir dans quelle position elle accouche. qu'il n'y a pas besoin de faire des touchés vaginaux à répétition pendant le travail, parce que ça ne sert à rien. Une femme, elle sait à quelle dilatation elle est. On sent très bien, enfin, quand on n'a pas de PMI, on sent très bien si on est encore en phase de latence, si on est en phase de désespérance, si c'est le moment de pousser. Enfin, voilà, on n'a pas besoin d'examiner une patiente qui est pas sous péridurale, parce qu'elle sent très bien. Et nous, on nous a beaucoup. Enfin, voilà, nous, pendant 2 ans, dans la théorie, on nous apprenait ça. Et puis après, on passait à la pratique en stage où bah, il y avait encore des vieilles pratiques, entre guillemets, que, ah mon Dieu, sa dilatation n'a pas avancé en 1 heure, bon, bah, on va rompre sa poche des os. Bah non, en fait, il n'y a aucun intérêt à rompre sa poche des os si, enfin, si juste son col ne s'est pas dilaté en 1 heure, parce que c'est juste normal, en fait. Et donc, moi, ça m'agaçait en stage de me dire, bon, j'apprends la théorie, puis après, dans la pratique, bah, faut que ça avance, et puis ah, bah, vous êtes sûr que vous voulez pas une péridurale, et puis voilà. Enfin, ouais, c'est pas entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Mais j'ai écouté du coup l'épisode avec du coup où tu interviewais l'étudiante sage-femme. Il y a toujours les protocoles qui sont derrière nous à l'hôpital, en tout cas pour nous protéger d'un point de vue légal, mais pas que à l'hôpital. Hein. Moi qui bosse en libéral, j'ai la main, enfin, il y a une mainmise qui est sur moi, dans le sens où si je fais des conneries dans un dossier, bah, l'ordre des sages-femmes me retombe dessus, et puis enfin, n'importe quelle patiente peut porter plainte contre moi s'il y a eu un souci. Mais de nouveau, les protocoles sont quand même pas. Enfin, il y a ça sur certains trucs où ils se mettent à jour rapidement, mais il y a sur certains trucs où ils sont pas à jour. Je vois notamment pour les déclenchements pour rupture de poche des os. Il y a des recommandations du Collège national des gynéco-obstétriciens de France qui sont sorties. Alors, je me plante peut-être dans la date, mais c'était quand j'étais étudiante, donc pour moi, c'est entre 2018 et 2020, qui disaient qu'il n'y avait aucune raison d'intervenir si ça faisait moins de 5 jours de rupture.
5 jours.
Je n'ai jamais vu un hôpital dans lequel on laissait les patientes 5 jours avec leur poche des os rompue.
Mais
C'est
jamais.
aux 48 heures maximum, on les déclenche. Pourquoi les protocoles n'ont pas changé? Il y a des recommandations écrites qui sont sorties disant qu'on pouvait attendre jusqu'à 5 jours. Et il y a la majorité des femmes, enfin, je crois que, je me souviens plus trop des chiffres, mais je crois que plus de 70% des femmes accouchent dans leurs 5 jours suivant leur rupture de poche des os. Donc pourquoi on les laisse pas aller jusqu'à 5 jours, en fait? Pourquoi à 48 heures, enfin voilà. Alors que des études ont prouvé qu'on pouvait attendre jusqu'à 5 jours sans qu'il y ait plus de risques, en fait. Donc laissons-les tranquilles à un moment.
Et pour renchérir là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche aussi très fort, et j'en parle avec plein de gens tout le temps, quand une personne qui est à 25 SA, elle fissure ou elle rompt sa poche des os, bah, on la déclenche pas. Et en fait, on lui dit, bah, vous allez
Oui, c'est
tenir
ça.
jusqu'à 37 SA. Donc oui, elle va tenir en fait 12 SA et elle ne va pas déclencher d'infection. Donc pourquoi tout à coup, là, vous êtes à 40 SA, vous avez déclenché... Enfin, ça n'a aucune espèce de sens,
Non,
en
mais
fait.
et je suis d'accord. Enfin voilà, pourquoi 48 heures? Enfin, pourquoi cette limite? Elle est arbitraire. C'est juste de dire, bah non, elle va pas prendre une place en maternité pendant plus de 48 heures. Bah on s'en fout, en fait, laissons-les
Laisser la
tranquilles
rentrée
et
chez
laissons-les.
elle.
Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que bah on doit les surveiller. Et en fait, il y a peu de maternités qui a... Alors, j'ai cru entendre qu'il y avait certaines maternités qui arrivaient à s'organiser quand les patientes habitaient proche de la maternité, de les laisser rentrer chez elles, et elles revenaient juste pour un monito une fois par jour, et puis voilà, une prise d'antibiotiques, et puis elles rentraient chez elles, si tout allait bien, et puis elles revenaient juste une fois par jour pour faire un contrôle. Mais dans la majorité des maternités, c'est pas fait, en fait. Les patientes, elles sont hospitalisées, elles restent 48 heures, et si au bout de 48 heures, t'as pas accouché, bah on te déclenche, alors qu'en fait, bah on pourrait attendre plus longtemps.
Et prise d'antibio direct, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux quand même, hein. Enfin, tu vois.
Bah, alors, prise d'antibiotiques à partir de 12 heures de rupture de poche des os, en règle générale. En tout cas, s'il n'y a pas de strepto-B.
Ok. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et donc, parce qu'on s'était parlé déjà un tout petit peu de, bah, de la pression des protocoles et du légal, en fait. Enfin, voilà, qui vous tient les mains, quoi. Et donc, enfin, bien sûr, c'est pas du tout qu'en
En
hôpital. On
soi,
voit bien les sages-femmes qui font des accouchements à domicile, bah, elles sont limite, enfin, c'est limite pire parce que enfin, ce sont des sorcières, et enfin, voilà, elles sont
mais en fait,
scrutées, elles ne
pourquoi
peuvent rien faire.
et je t'en parlais dans mon message, pourquoi il y a si peu de sages-femmes qui font des accouchements à domicile en France, c'est parce que juste en France, enfin, ça tend quand même à avancer un peu hein, vers le mieux. Depuis, enfin, il y a 30 ans, épisiosystématique et tout, enfin, on déclenchait tout le monde, ça tend à avancer, les chiffres en tout cas avancent vers le mieux. Mais on n'est quand même pas optimal parce qu'en France, on a cette culture du risque de la grossesse. En fait, on nous expliquait ça pendant nos études, c'est comme les assurances. Quand tu prends une assurance Et bah, ton assurance, elle a un tableau avec t'as tel risque, t'as tel risque, t'as tel risque, t'as tel risque. Et en fait, eux, ils parlent que en culture du risque, c'est-à-dire que toute ta vie, c'est un risque. Et en fait, en France, la grossesse, c'est ça. T'es enceinte, t'es à risque de ça, t'es à risque de ça, t'es à risque de ça. Et on devrait prendre les choses dans l'autre sens, en fait, et juste se dire, la grossesse et l'accouchement et voilà, et tout ce qui s'ensuit, c'est physiologique. Et certes, des fois, il y a des trucs qui merdouillent, mais en fait, comme dans la vie du quotidien, il y a des trucs qui merdouillent aussi, quoi. Enfin, voilà. Donc, certes, des fois, enfin, voilà, pourquoi voir cette grossesse comme juste, il y a tel risque, 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 il y a tel risque. Enfin, il n'y a pas besoin de voir tous ces risques partout, en fait. La normalité d'une grossesse, c'est juste que c'est un processus physiologique, que c'est censé se passer normalement, qu'un accouchement, c'est censé se passer normalement. Enfin, en fait, que tout ça, c'est juste un processus physiologique. Et il y a certaines sages-femmes, j'ai pas le droit de critiquer les autres sages-femmes, mais qui ont oublié en fait qu'on était des professionnels de la physiologie et qu'on est censé juste partir du principe que c'est censé bien se passer. Alors certes, je suis totalement OK sur le fait qu'il y a des risques et que les pré-éclampsies, ça arrive, et que les cholestases gravidiques, que ça arrive, et que ce sont des choses gravissimes. Pour autant, bah, ça nécessite pas forcément qu'on fasse un examen, enfin, genre l'examen du col tous les mois. Enfin, pourquoi faire un examen du col tous les mois à une patiente qui va bien et qui n'a pas de contraction et qui nous dit que ça va? Mais en fait, c'est la même chose dans tout. Moi, je suis sage-femme libérale, donc je fais aussi des consultations de gynécologie. Pourquoi aller faire un examen gynécologique par an si tout va bien? Pourquoi aller mettre un spéculum à toutes les femmes une fois par an si tout va bien? Ça ne sert à rien. C'est inutile quand il n'y a pas de symptômes, ça ne sert à rien. Donc arrêtons de faire des choses qui servent à rien. Et moi, mes consultations de suivi de grossesse, je fais aucun examen physique à mes patientes. Enfin, quand je dis que je fais aucun examen physique, je prends leur tension, on écoute le cœur de leur bébé et point quoi. C'est tout. Toute ma consultation, c'est juste bah, comment vous allez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Est-ce que vous dormez bien? Enfin, en fait, est-ce que tout va bien pour vous? Votre grossesse, elle est censée bien se passer. Et puis oui, bah oui, allez, hop, je prends votre tension histoire de vérifier. Mais en soi, si la patiente a dit qu'elle n'a pas de maux de tête, qu'elle n'a pas les jambes qui gonflent, normalement, elle fait votre pré-éclampsie, donc normalement tout va bien. Et puis bah voilà, on écoute les battements du cœur de son bébé, tout va bien. Bah, super. Bon bah au revoir, au mois prochain, quoi.
Ça me fait venir le sujet des effets iatrogènes de la médicalisation. Donc, et donc là, je voudrais aller dans plusieurs directions. Donc, déjà, pour rebondir sur ce que tu dis sur les touchers vaginaux, en fait, les touchers vaginaux, ils augmentent les risques de rupture de la poche des os, d'infection, etc. Donc, mais bon, après, je pense que ça revient sur ce que tu disais à l'instant, c'est que quand bien même il y a des recommandations qui sont mises à jour, eh ben, les recommandations, elles ne sont pas forcément appliquées. Et donc ça, c'est une problématique qui est désastreuse. Donc il y a ça. Et il y a aussi, donc ça, ce sont des choses qui ont été observées et puis dites par les grands Manitou. Donc du coup, ça, c'est censé passer. Et qu'est-ce qu'on fait aussi des risques qu'on observe que n'observe pas ou que refuse d'observer enfin voilà, les grands obstétriciens, gynéco ou sage-femme, tout ce que tu veux, comme ben oui, le fait que la péridurale, enfin, et en plus on le sait quoi, mais enfin oui, la position allongée, ça augmente les risques de déchirures profondes, que bébé reste coincé, que l'ocytocine de synthèse, bah, ça peut augmenter les risques que bébé ait des détresses au niveau du cœur, enfin, ce sont des choses qu'on observe de manière empirique. Mais il y a quelques petites études, mais bon, c'est vraiment éparpillé, qui le montrent. Pourquoi est-ce que ça, y a, pourquoi on n'arrive pas à un consensus sur ces trucs-là?
Pourtant, on nous apprend, enfin, par exemple, sur l'ocytocine de synthèse, nous, à l'école, enfin, quand on a appris notre métier et même enfin, en stage, on sait que l'ocytocine de synthèse et que les déclenchements, alors je parle des déclenchements, mais de l'ocytocine de synthèse aussi utilisée pendant le travail, parce que stagnation, la dilatation ou quoi,
Oui,
on sait
augmentation.
que ça crée des hyperkinésies, donc des contractions trop fréquentes ou trop intenses, que les hypercinésies, ça a un impact sur le rythme cardiaque de bébé, parce que oui, il n'est pas censé supporter une contraction qui dure 5 minutes, en fait, ce pauvre bébé, que l'ocytocine de synthèse, ça augmente les risques de faire une hémorragie de la délivrance. Enfin, en fait, c'est des choses qu'on sait.
Mais
En fait,
attends,
c'est
mais...
des choses qu'on... Non, mais c'est des choses qu'on sait. Nous, on nous apprend que l'ocytocine de synthèse en utilisation prolongée pendant le travail, ça augmente les risques d'hémorragie du postpartum. Parce qu'en fait, on sature les récepteurs à ocytocine de l'utérus et que quand il y a le gros pic d'ocytocine après l'accouchement qui est censé faire contracter l'utérus et délivrer le placenta, ben en fait, tous les récepteurs sont saturés, donc ils n'arrivent plus à recevoir en fait cette ocytocine naturelle. Ils contractent pas, donc on se délivre pas, donc on saigne.
Non, mais attends, ce que tu dis, moi, j'ai presque envie de pleurer tellement ça me met une rage pas possible. Et donc parce que donc, tu sais qu'il y a aussi ce truc protocolaire de faire forcément une injection d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce propos pendant vos études? C'est quoi la théorie?
Il y a des études qui ont montré que ça réduisait le risque d'hémorragie du postpartum de faire ce qu'on appelle une délivrance dirigée. Mais pour autant, alors j'aime toujours revenir avec mes patientes sur le fait que rien n'est obligatoire. Et souvent, les patientes qui veulent accoucher de manière physio à l'hôpital et qui du coup veulent pas d'intervention médicale, veulent pas non plus cette injection d'ocytocine. Et souvent, à la mater, on leur dit. Non, c'est un des rares trucs sur lequel on déroge pas et vous aurez votre injection d'ocytocine, quoi, parce que risque d'hémorragie de la délivrance. Sauf que, en fait, rien n'est obligatoire et tout est toujours soumis à consentement. Et j'aime rappeler à mes patientes que même si le cœur de leur bébé il est en train de s'arrêter là et qu'on l'observe sur le monito et qu'on leur dit, Madame, il faut partir en césarienne, code rouge pour sauver la vie de votre bébé, si elle dit non, c'est non. Légalement parlant, on n'a pas le droit d'aller lui faire une césarienne si elle dit non. Alors après, on rentre dans tout ce qui est éthique et tout ça, du fait que...
Psychologique.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais en soi, une patiente qui nous dirait non, je veux pas de césarienne, bah en fait, on n'a pas le droit légalement de lui faire une césarienne.
Oui, mais ça
Et en
c'est...
fait, voilà, on parlait des protocoles en maternité tout à l'heure, mais un des moyens de se protéger d'un point de vue légal... En fait, c'est juste qu'il faut qu'on note tout dans le dossier. Et si, voilà, si, exemple, il y a un rythme cardiaque, mais qui est vraiment dégueulasse. Enfin, il y a une bradycardie, le rythme cardiaque du bébé, on voit qu'il est à 50, qu'il ne récupère pas, et vraiment, ça ne remonte pas. Indication de césarienne, code rouge. On va voir la patiente, on lui explique, on lui dit tout ça. Voilà, le cœur de votre bébé, il est ralenti, il ne remonte pas du tout, il faut qu'on le fasse sortir. Est-ce que, enfin, voilà, il y a ces risques-là, on part en césarienne. Si la patiente, elle nous dit non, et ben nous, tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est juste d'aller noter dans le dossier. Patiente informée des risques, refuse la césarienne.
Oui,
Et
mais...
ça nous décharge totalement de responsabilité, en fait. C'est plus notre responsabilité. Mais à partir du moment où on a informé une patiente de la situation actuelle, de qu'est-ce qui pouvait se passer dans un cas comme dans l'autre, donc qu'elle a pu prendre enfin, qu'elle a pu prendre un choix libre et éclairé, bah, en fait, voilà, elle a dit non, elle a dit non. On note dans le dossier, refus, point.
Oui, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que... Enfin...
Mais clairement.
Enfin,
Enfin,
tu vois,
on a
le soignant, le soin...
voilà, les services d'urgence, c'est très difficile d'un point, enfin, c'est très difficile d'un point de vue consentement.
Impossible. Si
Voilà.
tu dis votre bébé il est en train de mourir, la dame elle va pas dire non, je refuse quand même. C'est de la manipulation. Enfin, tu vois. Et donc, bien sûr que c'est bienveillant de base de se dire le bébé il va mal, il faut sauver ce bébé. Mais sauf que parfois, il y a des soignants qui considèrent que le bébé est en train de mourir. Le bébé n'est pas en train de mourir. Le bébé, ben, ça va, quoi.
Ça. Mais en fait, voilà, c'est hyper difficile d'avoir un consentement libre dans le sens où forcément, quand on va dire bah là, ton bébé, ça va pas, enfin, il y a un truc qui va pas, il risque de mourir, bah oui, tu vas pas aller dire ah oh, bah mon bébé risque de mourir, non, on va pas le sauver.
Bah ouais, donc c'est aux soignants, enfin tu vois, les jauges sont pas forcément au bon endroit quand eux se disent cas de force majeure, ça l'est pas forcément, et la mère elle peut pas forcément se dire attends, moi je prends le recul, parce qu'il y a cette pression qui est mise sur elle. Pardon, je veux juste revenir sur un truc, Lucie, avant d'oublier. Donc ce truc d'études qui prouvent que l'injection d'ocytocine de synthèse, elle réduit les risques d'hémorragie de la délivrance, elles sont menées sur qui ces études? Parce que moi aussi, je tombe sur des études comme ça, mais ces études, on n'a aucune espèce d'indication sur comment s'est déroulé l'accouchement. On ne sait pas si cet accouchement il était sous péridurale, si l'accouchement, il y a eu de l'ocytocine de synthèse qui était donnée pendant cet accouchement, on n'a aucune
Mais
donnée
clairement.
là-dessus. Donc, partir du principe que l'injection d'ocytocine de synthèse, elle a aidé à ce qu'il n'y ait pas d'hémorragie de la délivrance, alors que... Bon, on ne sait même pas ce qui s'est passé avant, de un, et de deux, moi j'ai des personnes qui me disent, on m'a fait cette injection d'ocytocine, j'ai fait, dans les secondes qui suivaient, une hémorragie de la délivrance. Et ces personnes-là, elles font un lien entre les deux. L'injection qui aurait
Mais en fait,
engendré cette hémorragie. Donc franchement...
ce qui est hyper difficile, c'est que on ne peut pas faire d'études sur les accouchements, enfin, c'est très difficile de faire des études sur des accouchements physiologiques à domicile parce qu'il y en a peu
Ah oui.
et que c'est un contexte particulier. Et que nous, la norme sur laquelle on part en général pour les études, c'est une patiente en effet qui accouche classiquement à l'hôpital, donc a priori sous péridurale, a priori allongée sur le dos, enfin voilà. Et que du coup, bah oui, enfin forcément, qu'est-ce qu'on compare en fait dans ces études? Enfin voilà, c'est la question. On compare des accouchements qui sont déjà médicalisés à une autre médicalisation, mais en fait c'est hyper compliqué de faire des études en se disant bah on fait la, enfin on, voilà, on différencie des accouchements physiologiques à la maison et un accouchement à l'hôpital. Et en fait ces études-là elles sont hyper difficiles à mener.
Bah
Et en fait c'est pour ça que c'est hyper important de prendre toujours du recul sur les études parce que ça montre des choses certes, mais enfin, déjà, on ne peut pas se baser sur une seule étude parce que, il suffit que voilà, la population n'était pas assez grande, que ça a été fait dans un contexte particulier. Enfin, dans chaque étude, il y a des biais. Il n'y a pas une étude où il y a zéro biais et où il n'y a pas un truc qui, à un moment, fait que les résultats de l'étude ont potentiellement été changés. Parce que bah, y a des biais de sélection de population, il y a des biais d'intervention, enfin il y a des biais dans toutes les études. Et c'est pour ça que ces études, c'est important d'en voir beaucoup, parce que bah, forcément, plus on en voit, plus il y a d'échantillons de personnes, moins il y a enfin plus il y a de réduction des biais. Et une fois qu'il y a eu énormément d'études de fait, et bah, c'est important de voir aussi les méta-analyses, donc des études qui ont analysé les études, parce que c'est ces études-là qui sont les plus fiables sur les résultats, parce qu'elles ont analysé les résultats des études, mais aussi tous les biais qu'il y avait dans les études, et pourquoi ces résultats, ils pourraient être pris comme acquis et contents, parce que la population était très bien sélectionnée parce que, etc., etc., et qu'il n'y a pas eu trop de biais, ou est-ce que ces résultats, ils sont à prendre avec des pincettes parce que, bah, quand même, il y a eu tous ces biais, c'était une petite population, etc. Et en fait, c'est surtout ces méta-analyses-là qui sont hyper importantes à prendre en compte, et c'est souvent celles-ci qui sont prises en compte, hein, pour les recommandations. Et c'est important aussi de se rappeler toujours que quand on lit des recommandations médicales, mais même qui sont faites par, voilà, je prends l'exemple du Collège des gynéco-obstétriciens de France, il y a toujours des grades d'études qui ont été prouvées.
Oui.
Enfin, voilà, en fait, on a différents grades. On a le grade A, grade B, grade C. Et en fait, plus le grade est haut, plus on sait que c'est des grosses études avec une grosse population, avec moins de biais. Et un truc où on nous dit juste, il est recommandé de faire ci, avis d'expert, bah non, en fait, c'est juste des gens qui ont dit, oh, nous, on dit que c'est mieux de faire ça.
Ouais.
Et en fait, quand on voit avis d'expert, c'est pas parce que tu es expert de quelque chose que tu as raison, en fait. Donc c'est toujours, enfin voilà, les recommandations sont toujours à prendre aussi dans un contexte particulier et enfin faut toujours faire attention à ce qu'on lit en fait.
Ouais. Oui, mais tu vois, encore une fois, les études sur des vrais accouchements 100% physio, pardon, elles n'existent pas. Donc
Ah
voilà,
non,
et
ah
même
non,
les
clairement.
méta-analyses, elles creusent pas toutes ces questions que moi je me suis
Non.
posées quand j'ai écrit mon bouquin, par exemple, où je voulais comprendre pourquoi je trouvais autant d'études qui disaient, oui, l'injection de cytocine de synthèse pour la délivrance, c'est génial. Je comprenais pas jusqu'à me dire, mais attends, c'est quoi ces accouchements aussi? Et même les méta-analyses, elles creusent pas. Donc je veux dire, et mais enfin, c'est exactement ce que tu dis, mais je pense qu'il faut le mettre un niveau au-dessus, c'est-à-dire que les études, enfin, faut vraiment les prendre avec des pincettes, quoi. Tout n'est pas prouvé. Alors déjà, parce que je pense que tout n'est pas prouvable. Bon, ça, c'est un peu chiant, mais je
Non,
pense que
mais c'est ça,
c'est
tout n'est
vrai.
pas prouvable en fait.
Mais voilà,
Il n'y a
mais...
pas une vérité absolue en fait.
Alors, et en plus...
Ça
Et puis...
n'existe pas une vérité absolue.
Non, exactement. Et ce
C'est
qui
ça.
fonctionnerait très bien pour toi ne fonctionnerait pas pour moi. Et enfin, voilà. Mais ça, comment tu fais pour te battre quand toi, bah... Tu flippes d'accoucher chez toi, donc tu te dis, bah non, l'hôpital, c'est l'endroit le mieux. Puis tu as des soignants qui te disent, bah oui, mais les protocoles, c'est ça. Et tu te bats et tu leur dis, bah oui, mais la loi Kouchner, bah oui, mais les études. Et ils s'en foutent parce qu'il y a une matrix, enfin voilà, et on fait quoi?
Les femmes enceintes se retrouvent aussi avec tellement d'infos co contradictoires
Bien
parfois
sûr,
aussi.
mais bien sûr.
Enfin, voilà, moi, en prépa, parce que du coup, comme je suis sage-femme libérale, je fais aussi de la préparation à l'accouchement. Donc, en soi, c'est une préparation à l'accouchement classique. En fait, moi, mon but, c'est juste de leur expliquer comment ça se passe un accouchement physio et qu'est-ce qui peut se passer et pourquoi on peut faire les choses. Mais en fait, du coup, bah, quand je leur dis, on n'est pas, enfin, si on vous estime un gros bébé, il n'y a rien qui prouve que ça que ce soit mieux de vous déclencher, mais quant à l'hôpital, on va leur dire, bah en fait là votre bébé est estimé gros, faut qu'on vous déclenche parce que risque de ci ça ci. Bah en fait qui croire en fait quand
Bien
moi
sûr.
petite sage-femme je leur dis, Les études ont prouvé que ça ne réduisait pas les risques de vous déclencher si vous avez un bébé qui est estimé gros et le grand médecin qui vient leur dire « Ah oh, si, quand même, il est gros ce bébé, il faut vous déclencher ». Bah ouais, mais où elle se place du coup entre ces deux-là, quoi?
Et c'est
Bah
pour ça
c'est
qu'il faut
difficile.
absolument qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle réfléchisse par elle-même et qu'elle fasse leurs propres recherches. Mais encore une fois, elles vont faire des recherches, elles vont tomber sur des études qui sont débiles. Tu sais que j'ai cherché.
Est-ce que tu as le temps, t'en parlais aussi dans un autre épisode, est-ce que tu as le temps de faire toutes ces recherches, en
Mais
fait? Tu
non.
en parlais, tu disais que tu
Bah
avais des
non.
amis qui n'avaient pas pris ce temps-là, mais parce que dans notre vie de tous les jours, quand tu dois continuer à bosser pendant ta grossesse, en fait, tu n'as pas le temps de faire toutes ces recherches-là et te dire, bah, ok, ça me paraît plus vrai que ça, et tout ça, tu n'as pas le temps, en fait, de faire tout ça parce que tu es occupée, parce que tu as un travail, parce que tu es fatiguée par ta grossesse aussi. Enfin, voilà, tu n'as pas le temps, en fait.
Et tu sais que c'est ce que je disais avec Johanna qui écrit une thèse sur les enfantements autonomes. Donc j'ai sorti l'épisode, je sais plus, il y a quelques semaines. Et donc on parlait précisément de ça et de se dire, mais comment on fait en fait? Comment on fait? Parce que moi, je peux pas juste m'arrêter à me dire, les femmes, elles ont pas le temps, bon bah tant pis. Et en fait, on faisait un comparatif avec Bliss, avec ce que fait Clémentine Gallet. Clémentine Gallet, elle a créé, il y a 1 heure et demie par semaine, c'est énorme! 1 heure et demie par semaine, les femmes, elles trouvent le temps d'écouter des trucs sur l'accouchement. Donc, il est là le point, en fait. On peut, enfin, tu vois, et c'est ce que j'ai, évidemment ce que je fais avec ce podcast, mais on peut leur donner l'info, on peut planter des graines pour que soit elles aient envie d'aller creuser plus loin, soit qu'elles se disent, OK, moi j'arrête, je ferme tout et je me recentre sur moi et je fais ce que moi je veux. Et après, donc ça c'est encore un autre sujet, mais si la dame, on lui dit, il y a des risques de partout et qu'elle s'en fout et qu'elle veut prendre ses risques et que les choses finissent mal, mais peut-être que c'est comme ça aussi. Et peut-être que, enfin,
En fait, c'est ça, c'est que
si elle voulait prendre
oui.
son choix, elle a fait son choix, et si c'était en connaissance de cause et qu'elle l'assume, entre guillemets, peut-être que c'est comme ça et personne n'a jugé, en fait.
Nous, notre travail en tant que soignant, enfin, je pense qu'il faut aussi revoir ça. Notre travail en tant que soignant, c'est pas de sauver tout le monde. On peut pas sauver tout
Ah
le monde, c'est
ouais,
pas notre rôle.
clair.
On n'est pas Dieu, en fait. On sait pas, enfin, voilà, on n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Nous, notre travail, c'est de dire donc aux patientes, vu qu'on travaille là auprès des femmes et de leurs bébés, c'est de leur dire, vous êtes dans cette situation-là. À ce jour, il y a tel risque. Par exemple, je prends un exemple concret. Aujourd'hui, madame, vous commencez à faire une pré-éclampsie. La pré-éclampsie, les risques, c'est si, ça, si, ça. Pour réduire ces risques, le seul moyen de régler une pré-éclampsie, c'est de vous faire accoucher, donc de vous déclencher. Le déclenchement, il y a tel risque, tel risque, tel risque, ça se passe comme ci, comme ça, de leur donner toutes les informations. Et une fois qu'elles ont toutes les informations, et ben après, on a juste à leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à elles de prendre cette décision, c'est pas à nous de leur dire, vous faites une pré-éclampsie, on vous déclenche.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Point. Non. Ça, c'est le médecin paternaliste, ça n'existe plus. Enfin, c'est pas notre rôle de.
Ça
Enfin, on n'est
existe
pas le
tous
grand
les jours.
décisionnaire de la vie des gens, en fait.
Ouais,
On
il devrait
est
arrêter.
juste. Voilà. Voilà. Nous, on a des connaissances que les femmes n'ont pas, certes, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas ce que c'est la pré-éclampsie. Enfin, quand tu t'es pas informée, quand c'est ta première grossesse, quand on te dit juste, bah voilà, vous avez votre tension qui augmente un peu. Ah bon, bah j'ai ma tension qui augmente un peu. Bah voilà. Mais en fait, elles ne se rendent pas compte de tous les risques. Nous, on les connaît, les risques. Donc, bah voilà, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est leur dire. Les risques d'une pré-éclampsie, c'est ça. Pour régler une pré-éclampsie, il faut décrocher votre placenta. Donc, il faut faire accoucher. Et pour faire accoucher, bah, on a le choix d'attendre que ça se déclenche avec les risques que la pré-éclampsie flambe et que du coup, bah, il y a les risques pour vous et pour bébé. On a le choix de vous déclencher avec les risques de déclenchement. On a le choix de vous faire une césarienne programmée si vous préférez avoir une césarienne programmée. Et après, c'est juste à elle de prendre une décision libre et éclairée, en fait. Et c'est
Oui.
juste ça. C'est pas à nous de prendre des décisions pour les gens. C'est aux gens de prendre leurs responsabilités. Mais on nous apprend tellement à l'école et dans nos études de soignants que la responsabilité légale, la responsabilité, etc., qu'on a l'impression d'avoir toute la responsabilité de la vie des gens sur nous. Mais non, en fait, moi, j'ai pas, enfin, je suis pas responsable de ce qui arrive à mes patientes. Enfin, ça leur arrive parce que elles ont fait des choix, parce que c'est comme ça que se déroule leur grossesse, et que voilà,
Et
je suis pas
parfois, la
responsable de ce qui
responsabilité de
arrive.
personne.
C'est
Ouais.
ça. Et en fait, c'est ça qui est difficile pour certains soignants, c'est de se remettre en cause et de se dire, bah, en fait, je suis pas responsable de ça, parce qu'on leur a tellement, on nous rabâche tellement pendant nos études. Protégez-vous, remplissez bien vos dossiers parce que le jour où on porte plainte contre vous, enfin, et voilà. Et surtout que le milieu de la naissance, c'est un milieu où on porte beaucoup plainte parce que bah, c'est un moment de la vie, enfin, où c'est très triste de perdre son enfant. Hein. Je vais pas, voilà, c'est atroce à vivre ce deuil-là. Et que oui, à ce moment-là, quand tu perds ton enfant, je sais pas, pendant ta grossesse ou à l'accouchement, bah, tu as envie de faire porter la responsabilité des choses à quelqu'un. Et ta première idée, c'est de te dire, bah, le médecin a fait une erreur, donc je vais porter plainte contre lui. Et c'est à ce moment-là où les médecins, les sages-femmes, les infirmières, tout le monde a peur de se dire, mais si on porte plainte contre moi et si j'ai fait une erreur, bah, je me retrouve en prison, quoi. Voilà. Et donc,
Oui,
bah,
mais
on n'a
là,
pas envie de faire une erreur.
non, mais là, le problème est systémique. C'est-à-dire que pendant la grossesse de la personne, il faut arrêter que les soignants disent, enfin, ou fassent comprendre. Et donc, ce n'est pas que dans le cadre de soignants, soignants-patients, c'est aussi dans le cadre de notre société, mais il faut arrêter de penser, enfin, de prendre la responsabilité aux gens. On est dans une société qui est hyper infantilisante, que ce soit le gouvernement tout seul, hein, il fait très bien ça tout seul, mais aussi les soignants. Ce rapport dominant-dominé en France, il est dramatique. Et donc, bien sûr, la femme enceinte, elle est infantilisée toute sa grossesse, tout à coup, son enfant meurt, bah, puisqu'elle n'était pas considérée comme une personne à même de prendre des décisions, bien sûr qu'elle va se retourner contre la personne qui a pris les décisions. Et c'est normal. Enfin, à mon sens, le problème est pris complètement à l'envers. Il faut simplement remettre le pouvoir décisionnel dans les personnes enceintes et que les médecins soient complètement dédouanés de base. Par contre, je voulais juste compléter ce que tu disais sur il faut que les soignants restent à leur place et c'est pas aux soignants de prendre des décisions et tout. Il faut simplement, donc toi tu prenais le cas de la pré-éclampsie qui est un super exemple, de dire bah voilà, la pré-éclampsie, les risques c'est X, Y, Z. Si ça se transforme en éclampsie, bon bah enfin, voilà, tout le monde meurt. Bien souvent, tu vois, les soignants, ils vont dire vous arrivez à 42 SA, vous allez mourir. Moi, on a dit ça à une de mes très proches amies. Votre bébé va mourir, 42 SA. Donc, on peut se
Le
dire,
bébé ne va
ah
pas
bon,
mourir.
bah, on peut se dire, ah bah,
Tu sais
il a
qu'à
informé des
partir de
risques, et c'est pas
42
vrai. Il n'y a pas de risque à
SA,
dépasser 42 SA. Tu passes de 0,8% de risque de mort in utero à 1,4%. J'ai plus les chiffres, tu vois, mais ça reste infime. Et en fait, ils mettent leurs propres croyances dans la conversation. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'ils prennent le recul de se dire, OK. Moi, mes croyances, c'est ça, et peut-être d'ailleurs que je devrais me débarrasser de mes croyances, et je donne les chiffres en fait aux gens. Oui, tu dépasses 42 SA, le risque de mort in utero, bon bah voilà, il passe à X. Et après, la personne, elle se dit, tiens, c'est
ça.
marrant, il me reste quand même 99% de chances que tout aille bien, peut-être que, tu vois.
Mais clairement, moi je pars du principe de donner les chiffres aux gens.
Ouais,
Et
c'est
en
ça.
fait, avec ce chiffre-là, après, cette personne, elle fait son choix. Voilà, moi, je suis, enfin, je sais que les risques augmentent après 42 SA, mais en fait, oui, ce risque, il augmente un petit peu. Mais forcément, quand on dit à une patiente, votre bébé, vous augmentez son risque de mourir, juste ça. Et votre bébé, vous augmentez son risque de mourir si vous dépassez votre terme. Bah oui, forcément. Ah bah oui. Mais en fait, quand on leur donne le chiffre, bah, en fait, après, c'est à elles juste de prendre la décision qu'elles veulent avec ce chiffre-là. Est-ce qu'elles ont envie de prendre ce risque-là pour elles et pour leur bébé ou pas? Et si elles n'ont pas envie de prendre ce risque, bah, il y a le déclenchement avec les risques titati. Est-ce qu'elles ont envie de prendre ces risques-là? En fait, il faut juste arrêter de croire que les femmes enceintes, si on leur donne pas de chiffres, elles vont, enfin,
Qu'elles
elles
sont pas
doivent
capables de
forcément nous
comprendre
croire.
les chiffres. Mais en fait, le
C'est
truc,
ça.
c'est que ça va aussi plus loin que ça, c'est que Enfin, donc moi, j'ai pas mal de connaissances. Maintenant, avec le podcast, je commence à avoir plein de gens qui me contactent. Une personne, par exemple, qui a dit, bah non, moi, mon bébé, il n'est pas prêt à naître, donc non, je refuse le déclenchement. Donc, et en plus, elle était, enfin, tu vois, elle a été faire les monitos pour montrer, enfin voilà, bébé va bien, je suis de bonne composition, vous voyez bien, je ne suis pas une folle. Donc son bébé, il est né à 42 plus 5 ou 6, je ne sais plus. Et donc, du coup, elle s'était dit, bon, bah, je vais accoucher chez moi parce que de toute façon, ces gens, ils vont pas me respecter. Phase de désespérance chez elle, elle a perdu pied et elle s'est dit que quelque chose n'allait pas. Donc elle a été à l'hôpital en se disant j'y serai en sécurité. Ils ont commis les pires atrocités sur cette personne. Ils lui ont fait des menaces de signalement à la PMI, des menaces de signalement aux services sociaux, et puis des trucs de psychologie. Et en plus, elle est en surpoids, donc pour que vous avez un problème avec X. Enfin. Et donc en fait, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que non seulement il faut que les soignants ils donnent des faits bruts, qu'ils arrêtent de donner leurs propres croyances, et puis qu'ils, enfin, la menace des services sociaux, mais enfin c'est, enfin, on est dans un monde chelou quand même. Enfin non, c'est pas chelou, c'est hyper dangereux.
Carrément. Et en fait, ce qui est difficile en tant que soignant, c'est justement ça, ce que tu disais, c'est de se dédouaner de sa, enfin de se détacher de son expérience personnelle. Parce que, alors clairement, hein, une sage-femme qui bosse en niveau 1 et une sage-femme qui bosse en niveau 3, elles n'ont pas les mêmes croyances sur comment ça finit un accouchement, hein,
Bien sûr,
clairement.
bien sûr.
Une sage-femme de niveau 1, elle sait comment ça se passe la physiologie, parce qu'en fait, dans un niveau 1, bah, c'est des accouchements a priori physiologiques et il y a moins d'interventions médicales que dans les maternes de niveau 3. Et dans une maternité de niveau 3, c'est la banalité, les césariennes, les extractions instrumentales. Et donc, bah, forcément, quand tu vois toute la journée des césariennes, des extractions instrumentales, bah, à un moment, oui, ta croyance, enfin, tes croyances changent. Et c'est ça qui est dur, en fait. En fait, c'est juste, faut arrêter de. Mais c'est. Nous, on nous a aussi rabâché ça pendant nos études. Et c'est pour ça que je considère avoir eu des études qui m'ont bien formée à mon métier et qui m'ont bien formée aussi à tout ça et à l'éthique et tout ça. C'est que t'es pas censé donner tes croyances personnelles aux patientes, en fait. C'est pas. Ta croyance personnelle n'entre pas là-dedans. Ce qui rentre, c'est. Bah voilà. C'est tel risque à tel pourcent, tel risque à tel pourcent, tel risque à tel pourcent. Quel risque vous avez envie de prendre? Point. Et c'est tout. Ou de pas prendre, d'ailleurs. Et voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence? En fait, c'est les écoles. Toi, tu as été dans une bonne école, c'est ça? Et en fait, le programme, en fait, le programme n'est pas le même dans toutes les écoles. C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
Bah, en fait, dans les écoles de sages-femmes, pendant que moi j'étais étudiante, je ne sais plus si ça a changé maintenant, mais en fait, en gros, oui, chaque école avait son programme.
D'accord. Donc,
Ce n'était pas comme dans les universités de médecine où tu as tant d'heures de cours de nanana, tant d'heures de cours de nanana. En fait, c'était, voilà, chaque école de sages-femmes
Ah.
avait ses programmes, etc. Et donc, du coup,
D'accord.
on n'a pas toutes les mêmes formations. Par exemple, moi, dans mon école, toutes les sages-femmes qui sortent, donc j'ai fait mes études à Brest, toutes les sages-femmes qui sortent de l'école de sages-femmes de Brest ont la formation Bernadette de Gasquet qui est validée à la fin de leurs études. Donc, on a des formations sur les positions d'accouchement, pourquoi cette position allait mieux si le bébé il a le dos en arrière, pourquoi c'est important du coup de pouvoir bouger pendant l'accouchement. On a une formation aussi à l'entretien prénatal précoce, donc sur bah, de quoi il y a besoin de discuter, comment il faut aborder les choses avec telle patiente, c'est quoi, enfin voilà. Et en fait, c'est des formations qu'il n'y a pas dans toutes les écoles de sages-femmes parce que c'est très dépendant des différentes écoles en fait.
Ok. Et donc c'est quoi? C'est il y a une directrice ou un directeur qui décide du programme ou c'est il y a un collège de gens qui. Ouais, non, ok.
En fait, il y a la directrice et puis après, bah, il y a toutes les sages-femmes enseignantes, etc. Et c'est eux qui déterminent les programmes des années, etc. Alors après, du coup, depuis que moi, je suis sortie de l'école, on a aussi été intégrés à l'université depuis. Donc, du coup, peut-être que les choses ont changé depuis que moi, en tout cas, j'ai été diplômée. Mais quand moi, j'étais à l'école, ça se passait comme ça. Et c'était, voilà, chaque année, c'était, bah, les programmes qui étaient discutés comme ça. Et en gros, donc on en parlait au début, mais les 3 premiers, enfin jusqu'à ce qu'on soit en 3e année, c'est la physiologie. Et notre but, c'est juste d'apprendre la physiologie de l'accouchement d'un bébé, la physiologie de l'allaitement, enfin tout ce qui est physiologie et en fait la façon dont c'est censé se passer. Et puis ensuite, 4e, 5e année, là, on voit les pathologies parce que On a besoin de connaître ces pathologies-là, en fait,
Et bien
aussi. Et
sûr.
c'est important de savoir de une prééclampsie. Et c'est important de...
Bien
En
sûr.
fait, c'est important de savoir pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu prends la tension à une patiente tous les mois. Bah, c'est pas parce que ça te fait plaisir. C'est juste que, oui, en effet, si cette tension, elle se met à péter des plafonds, là, il y a des risques, en effet. Mais donc, c'est important qu'on connaisse ces pathologies. Mais en fait, faut toujours se rappeler que le cœur de notre métier, c'est la physiologie et qu'un accouchement et qu'une grossesse, c'est censé bien se passer. Et je le répète toujours à mes patientes en prépa. Un accouchement, c'est censé bien se passer, en fait. Enfin, la normalité des choses d'un accouchement, c'est que ça se passe bien. Enfin, en fait, sinon, on n'accoucherait pas. Enfin, notre
Oui.
corps est fait pour ça.
Oui, mais je crois que un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'un accouchement normal, c'est un accouchement sous péridural. Un
Oui,
accouchement sous
c'est ça.
péridural, en
Et...
fait, enfin, ça commence à devenir chaud, en fait.
Donc moi, du coup, comme je, enfin mes patientes, je les vois tout le long de leur grossesse. Donc je fais, il y a des patientes pour qui je fais que leur préparation à la naissance, mais il y a des patientes, je fais leur suivi complet. Donc c'est-à-dire que je les vois dès le début de la grossesse, on fait la préparation, je vais les voir à la maison après et tout ça. Et quand je fais l'entretien prénatal, donc avant de commencer les séances de prépa, quand je leur pose la question de comment vous voyez votre accouchement, et en fait, et il y a la majorité des femmes qui n'ont pas réfléchi à l'accouchement avant que je leur en parle, en fait. Et pour elles, aussi, psychologiquement, un accouchement normal, c'est sous péridurale.
Bien
Quand je
sûr.
pose la question de est-ce que vous avez le souhait de prendre une péridurale ou non, la majorité des réponses, c'est bah oui.
Ben oui.
Bah non, en fait, c'est pas là.
Mais ça,
Pas...
c'est la
Voilà,
société.
c'est. Oui.
C'est
Et
la
après, je leur dis,
société.
mais. Enfin, tu sais, ça paraît tellement. Ah ouais, je leur dis, mais vous savez, c'est pas une obligation, la péridurale. Vous avez le choix d'accoucher sans. Enfin, mais pourquoi je ferais ça? Et puis
Ben.
après, en prépa, du coup, bah, je leur parle de tous les moyens de gérer la douleur. Je leur dis, voilà, la gestion de la douleur quand vous voulez accoucher naturellement. Puis ensuite, je leur parle de la péridurale parce que on est d'accord que ça reste quand même un super moyen de gérer la douleur, la péridurale. Mais je leur dis, bah voilà, la péridurale, les avantages, réduction de la douleur. Et je leur dis pas qu'il n'y a plus de douleur parce que des fois, en plus, on a encore mal avec la péridurale, notamment quand bébé passe, des fois, on sent bien, expérience personnelle donnée. Et je leur expose les risques. En fait, je leur dis, bah, est-ce que vous savez que sous péridurale, vous pouvez plus faire pipi toute seule? Ah bon? Bah oui, en fait, vous sentez plus votre vessie sous péridurale. Donc, vous pouvez pas, en plus, vous pouvez pas vous lever sous péridurale. Donc, vous pouvez pas aller aux toilettes toute seule. Et vous ne sentez pas votre vessie, donc vous ne pouvez pas faire pipi toute seule. Et en fait, c'est des choses qu'elles savent pas. Pour elles, la péridurale, c'est juste, bah, c'est un moyen de plus avoir mal. En fait, non. La péridurale, c'est aussi, on peut plus se mettre debout. Forcément, quand on se met plus debout, enfin, en fait, ça paraît tout con, hein, mais la pomme tombe de l'arbre. Donc, un bébé, pour descendre, bah oui, il a besoin que sa mère, elle soit debout, en fait. Enfin, c'est juste la gravité qui fait travailler les choses, en fait. Donc forcément, quand on est allongé, bah, ça marche moins bien. Donc, en général, la péridurale, ça a tendance à augmenter la durée du travail. Avec la péridurale, on peut faire une chute de tension. Cette chute de tension, elle peut avoir un impact sur la perfusion au niveau placentaire et forcément faire baisser le rythme cardiaque de bébé. Enfin, en fait, la péridurale, c'est pas une anesthésie.
Merci de le dire.
Ça a des risques et j'en parle régulièrement sur mes vidéos. Et en fait, mon but, c'est aussi d'informer les femmes que oui, mais la péridurale, mais c'est génial pour certaines femmes. Mais il y a quand même des risques qu'il est important de prendre en compte. Et non, on n'est pas obligé d'accoucher sous péridurale. C'est pas. Oui, enfin, c'est la norme dans notre société, mais je leur expose aussi le fait que c'est très sociétal, la péridurale. Hein. En France, on est à 85% d'accouchement sous péridurale. Je crois qu'en Angleterre, ils sont à moins de 30%. Enfin, et c'est
Je
pas.
crois que
Enfin,
c'est un peu plus, mais tu sais que
ils sont aux
c'est terrible
alentours
parce
de
que.
30-40%. Voilà, c'est beaucoup moins en fait. Parce que bah, là-bas, alors là-bas, le protoxyde d'azote est vachement plus utilisé, mais le protoxyde d'azote, ça a l'avantage de ne pas du tout réduire la mobilité d'une patiente, en fait. Et c'est quelque chose qui peut être proposé en France. Et quand je leur demande aux patientes, parce que je leur pose toujours la question, ok, il y a la péridurale à la mater, mais est-ce que vous savez les autres choses qu'on peut vous proposer à la mater pour gérer votre douleur, mis à part tout ce dont on a parlé avant, donc la mobilité, la respiration, etc. Enfin, tout ça. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres choses? Ben non, il n'y a que la péridurale. Ben non, il n'y a pas que la péridurale, en fait. Il y a le protoxyde d'azote aussi. Il y en a dans toutes les maternités. Ça a l'avantage que c'est vous qui gérez la dose. Vous pouvez rester mobile. Ça a moins d'impact sur votre bébé. Enfin, en fait, il y a d'autres options que la péridurale. Mais ce n'est pas connu parce que nous, déjà, nos mères ont accouché sous péridurale. Nos grands-mères. Ça commençait peut-être en fonction de quand on est né. Enfin, voilà. Donc en fait, c'est juste là. Tous les gens autour de nous ont globalement accouché sous péridurale. Donc la majorité des femmes, quand elles viennent me voir, se posent même pas la question de est-ce qu'elles veulent une péridurale. C'est bah oui, parce que ça paraît normal.
Et puis, il y a cette culture de la peur autour de l'accouchement et autour de la douleur. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais comme ça. Moi, je me disais, de toute façon, j'accoucherai sous césarienne parce que je veux pas ressentir la douleur et je veux pas que je veux pas m'écarteler. Et on a cette culture de, mais tu ne veux pas avoir cette douleur, elle est insoutenable. Et c'est donc bien sûr, moi, ma mère me le disait, mais c'était pas que ma mère, c'est partout, c'est partout, c'est dans les livres, c'est dans les films, c'est dans les séries, c'est où tu vas au musée, c'est, mais partout en fait, personne ne te dit que bah potentiellement, oui, il y a la douleur, mais c'est OK, en fait, la douleur, parfois. Enfin, tu vois, et oui, ça peut être hyper dur, mais ça peut être un moment de communion avec quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te soutenir. Et tu ressors de là. Et personne ne parle de ça aussi. Parce que, donc, moi, j'en fais hein, des vidéos pour dire que la péridurale, bon, et que c'est OK d'avoir de la douleur. Et les gens ne comprennent pas quand je dis le truc de fou. Quand tu accouches sans péridurale, c'est ce que ça te fait devenir. Et donc là, à chaque fois, j'ai des sauts de « Ah, tu nous fais culpabiliser, c'est pas parce que j'ai pas accouché avec une péridurale. » Enfin, c'est pas parce que j'accouche avec une péridurale que je suis moins méritante. C'est pas une question de mérite. C'est une question de quand tu accouches sans péridurale que tu comprends qui tu es. Enfin, bon, et après, bah, pardon pour les personnes qui ont accouché avec péridurale. C'est pas que vous êtes pas des gens bien, vous êtes des gens géniaux, mais quand tu vas au-delà de cette douleur, il se passe un truc, et donc c'est un truc initiatique, enfin, c'est un rite initiatique, et il y en a encore dans quelques cultures, bah, plus beaucoup, parce qu'on éradique tout le monde, hein, nous les blancs riches, mais c'est un rite initiatique qui te fait devenir, moi je pense, quelqu'un d'autre, et peut-être une version meilleure, et peut-être, et on sait pas, on veut pas être forcément une version meilleure, mais une version aussi qui est plus capable de lutter pour elle-même, pour ses droits, et pour ses enfants, et oui, on est dans une société où on s'endort, et où on se dit, bah oui, c'est mieux, bah voilà, le gouvernement, il fait ça, bah je suis pas d'accord, bref, c'est pas mes oignons. Et en fait, quand t'accouches sans péridurale, tu laisses plus ça se passer, mais on est tellement peu nombreuses que bah, enfin voilà, on n'a pas assez de poids, mais si plus personne accouchait sous péridurale, pour moi, on ne serait pas dans une société dans laquelle on est. Parce que oui, en fait, tu passes un step et tu n'acceptes plus de te faire marcher sur les pieds et tu. Enfin, je trouve que ça va
Ah
tellement
oui.
plus loin, tu vois.
Du pouvoir, quoi.
Ouais.
Tu ressens quel pouvoir. Ouais. Et moi, dans tout, enfin, quand je parle, quand je fais justement cette séance de gestion de la douleur, etc., j'aime toujours rappeler aux femmes que notre cerveau est conditionné pour que la douleur dans notre vie du quotidien, ça nous signe un danger. Et souvent, je leur prends l'exemple de, bah voilà, tu mets ta main sur une plaque brûlante, tu te fais mal, bah oui, pour te protéger de ce danger de te brûler, tu vas enlever ta main. La douleur, c'est un signal qui te dit, non, protège-toi, enlève ta main, sinon tu vas te brûler. Et en fait, ce qui est hyper dur pour les femmes, c'est de se dire que la douleur de l'accouchement, elle est normale. Et que c'est même une bonne douleur, en fait, qu'elle est là pour quelque chose et qu'elle est là pour quelque chose de bien, et que c'est voilà, nos contractions qui se mettent en marche, le moteur de bébé qui se met en marche, que ces bébés qui descendent dans un bassin, et que c'est juste un processus normal. Mais en fait, comme on nous a appris toute notre vie à avoir peur de la douleur, vu que c'est quelque chose qui normalement nous protège d'un danger, et bien forcément, quand on commence à avoir mal pour son travail, on se dit oh, j'ai peur, j'ai mal. Mais non, en fait, tout va bien. Et en fait, c'est important. Avant d'accoucher, d'essayer de rééduquer en fait son cerveau à la douleur vraiment et de se
Ah,
dire
c'est clair.
non, cette douleur-là de l'accouchement, t'es pas en danger à ce moment-là, voilà, t'es pas en danger, tout va bien, c'est juste une douleur qui est normale, c'est une douleur qui va être que passagère, elle est là pour quelque chose, elle est là pour t'aider à mettre au monde ton bébé, et que aussi quand on accouche, donc certes il y a l'ocytocine, les contractions, et je vais pas dire pour avoir moi-même déjà accouché que les contractions j'ai vécu ça comme une partie de plaisir, mais bah il y a aussi plein d'hormones qui font en sorte que t'es moins mal et tu as aussi une grosse sécrétion d'endorphine quand tu accouches. Ton corps, il n'est pas là pour jouer contre toi quand tu accouches, hein. Il est là avec toi en fait et il est juste là pour faire en sorte que ça se passe bien. Et cette sécrétion d'endorphine, elle est tout aussi importante pour te permettre de gérer tes contractions. Et du coup, je reviens toujours sur le fait que quand tu es dans un environnement où tu as peur, bah oui, cette sécrétion d'endorphine, elle se fait pas. Donc forcément, bah, tu as plus mal ou tu as plus la sensation d'avoir mal en tout cas. Et que c'est hyper important en fait de vraiment rééduquer son cerveau à tout et de se dire, ok, mais c'est juste normal et je suis pas en danger et tout va bien en fait.
Non, c'est clair.
Quand toute ta vie on nous a dit bah oui bah quand tu accoucheras tu auras une péridurale et puis ça va aller.
Ouais. Et puis que personne ne parle des dangers de la péridurale. Et quand toi, enfin, j'allais dire petite, mais enfin, moi je trouve que t'es pas
Petite
petite parce que
sage-femme,
t'étais une
oui.
sage-femme et tout, mais quand t'es une petite sage-femme par rapport à la grosse autorité de l'hôpital et que tu dis bah la péridurale, bon, il y a des risques, ou moi, enfin qui suis mon personne, ben on est notre poids, il est tout petit, quoi. De dire, bah oui, mais la douleur, ça peut être OK, en fait. Et ton corps, il est OK, il faut juste que tu sois soutenue. Et le après, tu seras tellement fière de toi. Et on passe pour des personnes bizarres. à part ce type de pensée.
Ouais, bah oui. Mais quand je leur dis, enfin souvent quand je leur expose tous les risques, j'ai un papa une fois en prépa qui m'avait fait beaucoup rire, voilà, je faisais cette séance là où j'exposais tous les risques de la péri, et mon gars il me dit, vous êtes pas trop pour la péridurale, vous? Je dis, bah moi j'ai rien à dire, je dis juste, c'est les
C'est ça.
faits en fait. Pour autant, je sais quels sont les faits et je sais quelles étaient les augmentations des risques. J'ai quand même eu une péridurale pour mon premier accouchement. Alors, une péridurale déambulatoire avec laquelle j'ai pu continuer à marcher, etc. Mais j'ai, voilà, parce que, y a des moments aussi où on se dit, moi, je me sentais plus capable à ce moment-là de gérer mes contractions. Et ben, j'ai choisi l'option et j'ai aussi choisi ma maternité pour ça, parce qu'ils proposaient cette option de la péridurale déambulatoire et que je savais que si je voulais être soulagée, c'était quand même hors de question que je reste allongée dans un lit à ne rien faire et à juste attendre que ça se passe et à pas pouvoir me mettre dans des positions pour aider mon fils à descendre, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi important. Et tout ce processus-là, enfin, moi, j'ai plein de patientes qui se disent, bah oui, bah moi, je choisis ma maternité parce qu'elle est juste à côté de la maison, donc c'est super cool. Bah oui, mais non, en fait, c'est important, enfin, quand tu vas accoucher à la maternité, de te renseigner sur ce que font les maternités, sur leur taux de césarienne, d'épisio, etc. Parce qu'en fait, bah, toutes les maternités ne se valent pas à ce niveau-là non plus. Et qu'il y a des maternités où il y a des choses qui sont proposées et qui peuvent clairement être des choses trop bien pour l'accouchement, quoi.
Ouais. Donc toi donc t'as fait ton premier accouchement avec la péridéambulatoire, donc t'as trouvé ça chouette.
Donc du coup, j'accouche dans la même maternité cette fois-ci, parce qu'il y a cette option-là. En fait, l'option pour mon premier, c'était de me dire, bah voilà, je tente sans péri, mais je sais que si à un moment je sens que j'arrive plus à gérer cette douleur, j'ai l'option de la péridurale déambulatoire pour me soulager tout en pouvant continuer à bouger. Et c'était franchement cool. Pour autant, j'essaierai quand même de ne pas prendre la péridurale pour mon deuxième. Parce que arrivé au moment de la poussée, je ne sentais plus rien et c'était horrible de ne pas sentir de la poussée en fait. Et en gros, j'ai bien senti la descente. Arrivé au moment où mon fils était assez bas, je ne sentais plus du tout la sensation d'avoir envie de pousser. Donc bah, forcément, pour pousser, c'était catastrophique. Sauf qu'au moment où il est passé, j'ai tout senti. Clairement, le cercle de feu, je l'ai senti, même avec la péridurale. Donc en fait, je me dis, quel était l'intérêt du coup d'avoir senti les choses? Pas sentir comment pousser, alors en fait, depuis sa sortie, autant le faire sans, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et pourquoi tu prends pas l'option peut-être d'accoucher chez toi?
Parce que mon conjoint ne se sentirait pas prêt. Et moi, en fait, j'ai pas envie d'accoucher chez moi. La maternité dans laquelle j'accouche, j'y ai travaillé pendant un an, c'est un endroit où je m'y sens très bien, en fait, cette maternité-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, sans compter l'option de la péridurale déambulatoire, qui est une super option. Et vraiment, je défends ça et je comprends pas que ce soit pas proposé dans toutes les maternités,
C'est
parce
bizarre,
que
ça.
pouvoir être soulagée tout en continuant à bouger, c'est quand même super cool, ça réduit quand même certains risques de la péridurale. Et j'ai pas forcément désir d'accoucher chez moi, enfin, c'est pas quelque chose où je sens que ça m'apporterait quelque chose. Ça me va très bien d'accoucher à la maternité. Mais pour autant, bah, j'ai pas forcément. Enfin, en fait, je me dis, mon corps, il est fait pour ça, en fait. Il est fait pour accoucher. Et certes, on peut m'apporter de l'aide, mais si j'en ai pas besoin, quel est l'intérêt, en fait? Enfin, voilà, si j'en ressens pas le besoin. Et en fait, là, si j'en ai ressenti le besoin pour mon premier garçon, c'est que j'avais rompu ma poche des os avant d'avoir mes contractions. Donc, clairement, arrivé à 6 cm, j'avais bien mal. En fait, j'avais l'impression de ne plus avoir de repos. Et en fait, vraiment, la péridurale, ça m'a pas paru comme un moyen de gérer la douleur, c'était plutôt comme un moyen de me reposer. Il était 23 h, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée en fait, et c'était pas tant la douleur qui était difficile à gérer, parce que j'arrivais très bien à la gérer avec voilà, le ballon, enfin j'arrivais à la gérer. J'avais mal, hein, je vais pas mentir, j'avais l'impression de ne pas avoir de repos, mais c'était surtout ça qui était difficile en fait. C'était la fatigue qui s'accumulait avec cette sensation de ne pas avoir de repos et de phase de pause entre mes contractions, parce que vraiment j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avais une contraction, enfin clairement quand on n'a pas. Quand on a rompu la poche des os sans péri, enfin quand ça appuie quoi sur le col, c'était fou. Et donc du coup, ouais, ça m'a plutôt paru comme un moyen de pouvoir me reposer un peu, de mieux gérer mes contractions. En fait, l'avantage de la péridurale déambulatoire, c'est qu'on sent toujours ses contractions, donc je les sentais. Ça revient juste à un seuil qui est un petit peu plus tolérable en fait, et qui était plus tolérable pour moi en fait.
Sauf après quand le bébé descendait et que tu sentais plus rien,
C'est
c'est
ça.
ce que tu disais.
C'est ça. En fait, c'était super pendant tout mon travail, et du coup j'ai eu un travail qui était relativement vite, enfin, même si il n'y a pas, enfin, toutes les femmes accouchent différemment et il y a des travaux qui vont vite et d'autres qui vont pas vite et c'est juste comme ça. Mais pour un premier bébé, en tout cas, ça m'a pas paru être très long. Mais ouais, cette fin de travail, par contre, j'ai trouvé ça tout pourri, clairement. C'est le seul truc que je regrette de mon accouchement, c'est vraiment juste ce moment de la phase de poussée où on me disait, bah oui, il est assez descendu. Et moi, je le sentais parce que, en fait, avant, j'avais senti qu'il appuyait bien, mais là, je le sentais plus. Et du coup, bah, je poussais, mais je me disais, bah, est-ce qu'il descend bien ou quoi? Puis après, au moment où il est passé, je me dis, ah, il descend bien quand même. Oui. Mais parce que c'était juste ce quart d'heure-là où bah, je ne sentais plus et c'était nul, quoi.
En fait, je te pose la question, pourquoi t'envisages pas l'accouchement à domicile? Alors bon, le fait d'avoir des conjoints qui sont pas hyper qui sont frileux et qui nous mettent des bâtons dans les roues, je connais un peu ça, donc c'est OK. Mais en fait, je te pose cette
Enfin, alors,
question.
je ne mettrais pas des bâtons dans les roues. Hein. Si je lui disais
Non, je le
vraiment,
dis comme ça,
tu peux accoucher à la maison, il me dirait OK. Mais c'est juste que quand j'ai émis l'idée, il a dit ah oui, t'es sûre? Voilà. Je lui dis bah, je sais pas, je verrai. Peut-être qu'au fur et à mesure de ma grossesse, je changerai d'avis, quoi.
Ouais, mais du coup,
Voilà.
ça, toi, peut-être pas, mais ça peut. C'est quand même une petite graine dans le cerveau de personnes tu vois, qui hésiteraient de se dire, ah bon, bah tant pis, tu vois. C'est quand même une graine de la peur qui est plantée, que je trouve un peu relou. Donc, c'est pour ça que je dis mettre les bâtons dans les roues. Parfois, ils sont OK quand tu discutes, mais bon, je trouve ça quand même un peu casse-pied. Bon. Mais je veux te demander ça parce que moi, ce que je trouve hyper difficile, et j'en discutais il n'y a pas si longtemps avec une autre personne, c'est que quand tu accouches à l'hôpital et que tu sais qu'elle est là, la péridurale, elle est là, là, elle est là. Alors que tu la veux pas. Enfin, moi, ma première fille, je voulais être à l'hôpital parce que j'avais peur, j'avais pas compris ce que je faisais. Et je ne voulais pas de péridurale. Et pourtant, à la fin, j'ai demandé la péridurale parce que on m'a fait des touchés vaginaux qui voulaient rien dire. J'avais aucun soutien émotionnel, aucun soutien physique. Personne ne m'aidait à bouger. Du coup, bah, j'ai stagné un peu. Mais en vrai, dès que j'ai bougé, bah, en 30 minutes, il y avait plus. Enfin,
Oui.
une fille sortait. Donc j'ai dit, bah non, j'en peux plus, en fait, ça fait 3 heures que je hurle à la mort de douleur, vous me dites que je suis encore qu'à 6, bah non, mettez-moi la péridurale, donc au final on m'a bougé et le temps que l'anesthésiste arrive, j'avais plus besoin. Mais de savoir qu'elle est là, alors que toi,
Ah oui, non, mais
t'es en
clairement.
souffrance, en fait, c'est ça où je me dis, et du coup je te demande à toi, parce que je sais que des femmes qui sont moins formées, qui se disent, bah non, mais je serais bien à l'hôpital, mais je prendrais pas la péridurale, je vois bien, elles comprennent pas, et c'est normal qu'elles comprennent pas, elles n'ont pas l'expérience, mais toi qui as l'expérience, tu vas quand même te rejeter dans la gueule du loup de te dire, je vais le faire,
Alors,
tu vois? Alors que je trouve ça si dur, en fait, c'est ça qui est difficile.
il y a aussi le fait que pour mon premier, j'ai pas assez. Pas gentil ce que je vais dire, j'aime mon conjoint de tout mon cœur. J'ai pas assez éduqué mon conjoint à ce que je voulais. En fait,
Ah oui.
quand arrivé à 22h, j'avais bien mal, j'avais plus de repos entre mes contractions et que je lui ai dit je veux la péri, il m'a pas posé la question à ce moment-là de
Ouais.
est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou est-ce qu'il n'y a pas une autre option là que tu envisagerais? Et en
Ouais.
fait, du coup, bah, quand je lui ai dit je veux la péri, il m'a juste dit bon, bah, ok, bah, viens, on va en salle de naissance. Il faut savoir qu'à ce moment-là,
Ouais,
j'étais
d'accord.
toujours moi dans ma chambre. J'ai été en salle de naissance qu'à partir du moment où je voulais ma péridurale. Sinon, enfin, l'avantage aussi, et c'est pour ça que moi, enfin, je considère que ça ne me change pas beaucoup les choses d'accoucher chez moi ou à l'hôpital, c'est que c'est mes collègues, je les connais toutes là-bas, et
Sûr.
si je leur dis, foutez-moi la paix, enfin, j'ai plus de poids qu'une patiente lambda, entre guillemets. Enfin,
Bien
moi, pour
sûr.
mon premier accouchement, on m'a pas cassé les pieds, quoi. J'ai rompu ma poche des os. On m'a juste mis dans une chambre, on m'a dit, bah voilà, bah tu fais ta vie, et puis quand tu sens que tu as besoin de revenir nous voir, bah tu reviens nous voir, ok. Bah quand j'ai commencé à avoir mes contractions, bah je suis juste restée dans ma chambre, je suis pas retournée les voir, voilà, j'ai pris ma douche, j'ai fait du ballon, j'avais tout ce qu'il fallait dans ma chambre et j'ai pas eu besoin d'elle. Et j'y suis juste retournée au moment où je sentais que j'avais besoin. Et en fait, je pense que si mon conjoint à ce moment-là m'avait demandé, est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment la péridurale ou est-ce que tu n'envisages pas autre chose? Bah, j'aurais peut-être réfléchi 2 secondes et que j'aurais dit, bah non, je veux bien tenter le protoxyde d'azote, parce que je pense que le protoxyde d'azote, ça m'aurait largement suffi pour pouvoir avoir un petit moyen de me soulager et tout, quoi. Et donc du coup, cette fois-ci, je l'ai briefé et je lui ai dit, mais si je te dis à un moment je veux la péridurale, pose-moi juste la question de est-ce que tu es sûre que tu veux la péridurale? Et est-ce que là tu veux juste pas te reposer en fait et avoir un moment de pause et du coup peut-être prendre autre chose qui te permettra de te reposer 5 minutes? Et voilà, je l'ai un peu plus briefé cette fois-ci parce que je pense vraiment que c'était juste ça qui a manqué pour mon premier. C'était vraiment ce quand je lui ai dit je veux la péri, bah il s'est pas posé de question, il m'a dit bah viens, je t'accompagne en
Bien
salle de
sûr.
naissance et puis on y va, et parti, quoi.
Un truc que j'avais dit à mon mec et ma doula pour ma première, qui avait fonctionné, et même pas trop parce que j'étais, enfin vraiment, j'en pouvais plus, mais je leur avais dit, si je vous demande la péridurale, vous me dites, OK, on comprend, peut-être qu'on peut t'aider. Et donc, ils ne l'ont absolument pas fait, vraiment, honte à eux. Mais peut-être qu'on peut faire quelque chose pour que ça aille un peu mieux. Viens, on change de position, machin. Et on s'en reparle. On s'en reparle dans 20-30 minutes. On s'en reparle de la péridurale. Mais juste, ne pas donner une réponse là comme ça. Je veux la péridurale. Oui, non. Bah, viens, on s'en reparle tout à l'heure. On s'en reparle. Et donc, en fait, mais juste gagner du temps. Juste laisser le temps à ton col de se dilater. Et ça, potentiellement, ça peut tout changer, quoi.
Et puis, je pense aussi que si j'ai demandé la péri à ce moment-là, c'était que vraiment mon travail s'accélérait. Enfin, voilà,
Ouais, c'est
je
ça.
l'ai demandé à 22 h, j'ai accouché à 3 h du matin. Enfin, ça a été hyper rapide après,
Tu es en
derrière.
pleine
Et je pense
désespérance,
que
en fait.
c'était juste. C'était un trop d'un coup ça s'est accéléré, d'un coup je me suis dit ouh, j'ai plus de répit entre mes contractions, et en fait voilà, j'ai paniqué, mais comme n'importe quelle femme, parce que clairement
Bien
quand
sûr.
t'accouches, t'as beau être sage-femme, t'es plus sage-femme hein, à ce moment-là hein, t'es... de toute
Non.
façon tu réfléchis pas quand t'accouches hein,
Non.
tu c'est pas t'as pas besoin de réfléchir, c'est juste animal, et du coup j'étais plus sage-femme à ce moment-là, j'étais juste une femme en train d'accoucher, et mon conjoint qui m'a vu avoir mal et qui a dit elle veut la péridurale, bon bah allez on va la soulager et péridurale quoi. Donc j'ai bien dit cette fois-ci non, si je veux la péri, enfin si à un moment je te dis je veux la péri, bah, tu me redemandes, quoi. Tu me dis, t'es sûr
Ouais.
que c'est ce que tu veux là, maintenant, tu coupes, ou tu veux pas attendre un peu, ou tu veux pas qu'on essaye autre chose, ou tu veux pas. Voilà. Qui me soutiennent, qui soient là pour juste revoir si c'est bien ma décision à ce moment-là, ou si je me dis juste non, c'est parce que je suis fatiguée, parce que j'en peux plus. Enfin, voilà. Et ce qui est normal, parce que quand tu arrives à la fin de ton travail, bah oui, t'as l'impression de
Bien
plus en
sûr.
pouvoir, quoi.
Et puis en vérité, parfois on dit je veux la péridurale, mais en fait on dit juste j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on
C'est
m'aide.
ça.
Et l'aide, c'est pas la
C'est ça.
péridurale. L'aide, c'est
Engagé, quoi.
aidez-moi. Et aidez-moi, c'est
C'est
juste le
ça, voilà.
regard, tu es en train de le faire, tout va bien, Lucie, tout va bien.
C'est ça. C'est important d'éduquer le coparent aussi, et c'est pour ça que j'aime
C'est
bien que les
clair.
coparents viennent en prépa aussi.
C'est clair. Tellement important. On arrive à la fin de notre conversation, Lucie. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde avant qu'on se quitte?
Bah non, c'est plutôt pas mal.
Le cordon
Franchement, ça me
autour du
paraît plutôt
cou.
bien. Oh. Bah, 50% de jeunesse avec un cordon autour du cou et il meurt pas, c'est pas grave.
On est bien d'accord.
Voilà. Voilà, la moitié de la jeunesse avec un cordon autour du cou, on n'en fait rien, c'est juste normal. Voilà. Et puis, on le prend, on l'enlève, et puis voilà. C'est fini. Voilà, non. Il y a des choses qui méritent d'être encore améliorées à l'hôpital. Et on avance, et heureusement. Enfin, voilà, il y a certains sujets, enfin, clairement, l'épisiotomie, on fait plus des. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions, mais. Moi, dans ma région, enfin l'hôpital dans lequel j'accouche, on est à 1% d'épisiotomie, c'est ridicule. Mais parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Et heureusement, il y a certains sujets en avance. Mais il y a certains sujets qui demandent encore du travail. Et clairement, si. Alors, je vais défendre toutes mes collègues hospitalières, mais si on augmentait les effectifs à l'hôpital aussi,
Bien sûr,
bah, on aurait
bien sûr.
moins besoin que les patients soient sous péridurale et on aurait moins besoin que de mettre de l'ocytocine parce que le médecin, là, il s'en va dans 2 h. Enfin, non, en fait, non. Laissons les femmes reprendre le pouvoir de leur accouchement. Laissons les femmes accoucher comme elles le souhaitent et essayons, oui, de continuer à mettre à jour nos connaissances. Parce que, oui, quand tu es sage-femme depuis 30 ans et que quand tu as commencé à bosser, on mettait de l'ocytocine à toutes les femmes et qu'on faisait des bios systématiques. Bah, ça nécessite un retravail mental de refaire des recherches et de te remettre à jour sur bah non, en fait, les bisios, ça sert à rien, que l'ocytocine de synthèse, quand tout va bien, ça sert à rien, que les études ont montré qu'un travail, c'était juste long et que une stagnation de la dilatation, enfin, ce qu'on appelait une stagnation de la dilatation il y a 30 ans, c'est pas du tout ce qu'on appelle une stagnation de la dilatation aujourd'hui. Donc, en fait, voilà, juste faut juste mettre à jour ses connaissances et essayer de se remettre un peu en question. Parfois, on n'a pas la science infuse et personne ne l'a. C'est juste important d'avoir des connaissances à jour pour juste informer les femmes du mieux qu'on peut de ce à quoi elles ont le droit et de ce qu'elles peuvent faire, en fait. Et qu'ensuite, elles prennent leur décision libre.
Ça me fait venir une question que j'avais tout à l'heure et qui était partie et qui revient là. J'ai quelqu'un, enfin, je crois qu'une ou deux fois, on m'a répondu ça quand je disais que l'ocytocine de synthèse, ça pouvait générer des contractions trop fortes. J'ai plus le terme technique que tu as dit tout à l'heure là.
Hypercinésie, soit de
Hypercinésie.
fréquence, soit d'intensité. De
Oui, c'est
fréquence,
ça.
ça veut dire que les contractions, elles reviennent trop souvent, et d'intensité, ça veut dire qu'elles sont trop, trop hautes et trop
Ouais.
longues.
Et en fait, il y avait cette personne qui me disait, en fait, ça dépend de la quantité d'ocytocine de synthèse qui est injectée.
Aussi, parce que du coup, alors dans les cas de déclenchement ou en tout cas ou de voilà, stagnation de la dilatation et on met de l'ocytocine, en fait, l'ocytocine, on la dose au millilitre. 10 grammes près. Enfin, en fait, on les met dans des pompes. Ces pompes-là, on met une certaine dose. Et en fait, selon la dose, bah, ça a des effets plus ou moins puissants. En fait, ça a un effet dose dépendant, l'ocytocine. Donc, forcément, plus on met une dose forte, plus il y a des contractions qui seront importantes. Et c'est pour ça que quand on nous déclenche, on a un monitoring en continu. Parce que quand on a une péridurale, en tout cas, on ne sent pas ces contractions. Et que nous, quand on déclenche, bah, on a besoin de voir, d'objectiver les contractions si elles sont trop fortes pour pouvoir réduire la dose, en fait.
Ok, hyper intéressant. Trop cool. Bon, bah merci beaucoup Sylvie, c'était vraiment génial. Sylvie, n'importe quoi.
Pas grave. Et
En
c'est l'heure
fait,
de manger.
oui, non mais ah, parce que surtout Sylvie, c'est le prénom de ma belle-mère, donc de la mère de ma fille qui est en train de garder ma fille. Donc je pense que là, je suis en train de faire un petit, un petit transfert.
Là, vous trouvez ma fille.
Parce que je veux dire tout à l'heure, merci Sylvie d'avoir gardé ma fille. Donc merci Lucie.
Bien.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.